Bonjour, nous sommes la
Oh, Ivan.
Quoi, Alexis?
J'ai un virus très grave.
Alors, il faut t'amener chez le médecin?
Mais non, c'est sur mon lit.
Ouf, et tu connais mon parrain?
Non.
Eh bien, il est responsable de sécurité informatique. Tu sais qu'il y a seulement 15 personnes en Suisse et 5500 dans le monde qui font son métier?
Waouh, je me demande qu'est-ce qui lui a donné envie de faire ce métier.
Y'a qu'à lui demander. Allez, viens, on va rejoindre Aléna, Gugdenis, Emmanuela et Alexandre, bien sûr.
Est-ce que vos parents vous ont encouragé à faire ce métier?
Oui, totalement, oui. Oui, ils m'ont encouragé à continuer, à faire mon apprentissage et puis donner les coups de main nécessaires.
Est-ce qu'il y a plusieurs types d'informaticiens?
L'informatique, c'est un métier qui est très vaste. Il existe plein de professions. On va dire qu'il y a trois catégories. Il y a des personnes qui vont plus s'occuper des machines, des serveurs, des bêtes de stockage. Ensuite, il y a des personnes qui vont plus se spécialiser dans la communication entre ces différents éléments, donc au niveau réseau. Et puis la troisième partie des personnes, des professions, elles seront plus dans le développement des logiciels. Donc ils vont créer des programmes, par exemple pour faire des jeux vidéo, des applications pour des tablettes, des téléphones, ou bien alors des programmes qui vont après fonctionner sur vos ordinateurs.
Vous utilisez des mots de passe pour rentrer dans des salles ou pour rentrer dans des ordinateurs?
Alors, plein de techniques, des mots de passe extrêmement complexes avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux. Et puis, quand on est dans des lieux qui sont très protégés, on doit des fois se faire scanner la rétine, donc au niveau de l'œil, ou alors on se fait scanner les veines de la main pour avoir accès aux salles machines.
Quel est votre pire souvenir?
Mon pire souvenir, oh là là, il y en a quelques-uns, mais j'ai une anecdote. Quand j'ai commencé ma carrière d'informaticien, je travaillais pour une banque privée et puis j'étais responsable pour toute la plateforme de bourse. Donc c'est les banquiers qui achètent et qui vendent des actions. C'est quelque chose qui était assez important et puis je me souviendrai toujours, je devais exécuter un programme. Manque de bol, je l'ai exécuté sur la mauvaise machine. Et puis, entre le moment où j'ai cliqué sur Enter et que j'ai remarqué que j'aurais pas dû le faire, le téléphone sonne, on peut plus travailler, la banque est bloquée, on peut plus passer d'ordre. Et puis là, j'ai eu une grosse montée d'adrénaline, une grosse montée de stress. Assez désagréable comme souvenir.
Comment avez-vous réussi à résoudre ce problème?
Une fois que le système de bourse ne fonctionnait plus, j'ai eu droit à la visite de toutes les personnes qui travaillaient, qui venaient se plaindre derrière moi, pourquoi ça ne fonctionne pas. Le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner, donc la première chose que j'ai faite, c'était vraiment de prendre un petit peu de recul, respirer un bon coup, et puis d'analyser le problème. Et puis souvent, dans les grandes entreprises, on a toujours un plan B qui est disponible, c'est-à-dire une solution de secours. Et puis, j'ai mis en place cette solution de secours qui m'a permis de redémarrer cette application sur une autre machine rapidement. Mais les 5 minutes où l'application n'a pas fonctionné, c'était vraiment la fin du monde pour les collaborateurs. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que dans la plupart des entreprises, l'informatique est vraiment devenue un outil indispensable. Et que quand ça fonctionne pas, c'est presque toute l'entreprise qui s'arrête.
Vous avez déjà eu des problèmes impossibles à résoudre?
Jusqu'à présent, non. Certains prennent beaucoup de temps, mais on arrive toujours à ses fins.
Voici vos instructions, Gadget.
Le plus gros rubis d'Inde volé par Dr. Gangstop projette de l'utiliser d'un super laser pour détruire satellite de communication. Stop. Ce message s'autodétruira.
Prenez cette affaire en main tout de suite.
Dès que je serai sorti des vôtres, chef.
Au niveau du sécurité, qu'est-ce que vous nous conseillerez?
Alors, je dirais la première chose qui est importante, c'est la prudence. Donc ça, c'est à vous, lorsque vous recevez une information, de réfléchir, est-ce que cette information elle est valable ou pas et qu'est-ce que j'en fais? La deuxième chose, c'est d'installer des solutions de sécurité, logiciels antivirus par exemple, sur vos ordinateurs et puis aussi sur vos téléphones ou alors sur vos tablettes, parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'attaques qui sont ciblées sur les téléphones portables. Et puis, on ne se rend pas forcément compte, mais une personne extérieure peut prendre par exemple possession de votre téléphone portable et puis utiliser votre caméra que vous avez sur le téléphone sans que vous le sachiez, que vous le remarquiez, et puis vous prendre en photo ou vous enregistrer. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'être un petit peu au courant de ce qui peut arriver avec vos différents équipements numériques.
Comment on pourrait mettre les antivirus sur nos portables ou...
Alors, il existe des applications, là aussi, de la même manière que vous le faites sur un ordinateur. Vous avez des applications à installer qui vont sécuriser votre téléphone ou votre tablette.
Nous avons entendu parler de Dark Web. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Alors, le Dark Web, c'est en fait un Internet qui est caché, auquel on accède par des programmes spéciaux. Donc, si on va sur Google, on ne va pas pouvoir, par exemple, accéder au Dark Web. Et puis, ce Dark Web a deux utilités. Une première utilité, en fait, c'était pour pouvoir échanger des informations en détournant les mécanismes de contrôle qui sont mis en place par différents gouvernements. Par exemple, en Chine, on a vraiment des possibilités limitées pour s'exprimer. Toutes les informations qui transitent par Internet sont contrôlées. Et puis, pour combattre ça, on utilise justement le Dark Web, par exemple, pour échanger des informations. Et puis la deuxième partie du Dark Web, comme c'est quelque chose qui est caché, qui est presque totalement anonyme et beaucoup moins contrôlé, ben c'est toute la partie criminalité. Donc sur le Dark Web, on peut acheter tout ce qu'on ne pourrait pas acheter normalement. Donc ça passe d'armes, de services d'espionnage à d'autres choses particulières. Je ne pense pas qu'on peut en parler à la radio avec un public de votre âge, mais bref, toute la noirceur du monde, tout ce qu'on vous dit de ne pas faire, de ne pas acheter, on peut le trouver sur le Dark Web.
Futur, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au niveau de la sécurité ?
Alors, il y aura plein de changements, je pense que vous l'avez remarqué. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'objets qui sont connectés. Vous avez certainement tous un ordinateur, peut-être une tablette, un téléphone. Et puis maintenant, on a les télés qui sont connectés, on a des montres qui sont connectées, on a des frigos qui sont connectés. Et puis, on a des voitures qui vont commencer à rouler toutes seules. Et puis, tout ça, ce sont des vecteurs qui peuvent générer des attaques. Et puis, actuellement, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'expériences qui sont faites au niveau des voitures autonomes. Donc, ces voitures qui conduisent toutes seules, où on a déjà remarqué qu'il y avait des personnes qui pouvaient prendre possession de la voiture et puis tout à coup donner un coup de volant sur la droite, sans que la personne qui est à l'intérieur puisse s'en rendre compte. Donc ça, c'est des choses auxquelles on va avoir droit dans le futur, certainement. Et puis, après, on a aussi plein de risques qui sont liés par rapport à des organismes criminels qui veulent se faire de l'argent, parce qu'en fait la sécurité informatique, c'est un domaine qui rapporte extrêmement d'argent. On parle d'un marché de plus de 200 milliards de dollars. Et puis, bien évidemment, il y a chaque personne qui a des mauvaises intentions, qui aimerait profiter un petit peu de ça et puisse faire un peu d'argent. Et puis ce qu'on remarque actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se font attaquer. Et puis, elles se font crypter leurs données. Donc, en fait, le cryptage de données, c'est comme si on prend un livre et puis que ce livre, on le secoue pour mélanger tous les mots pour qu'il soit après incompréhensible. Et puis, la personne qui va pirater cette entreprise, elle va dire, ben tiens, si tu as envie maintenant de pouvoir de nouveau lire ton livre, récupérer tes données, il va falloir que tu me donnes telle et telle somme pour que je puisse ensuite te fournir la clé qui va te permettre de retrouver tes données. Donc ça, c'est aussi des phénomènes qu'on va vraisemblablement voir très fortement évoluer ces 2 ou 3 prochaines années. Gadget au chapeau,
gadget au poing, élastique au gadget. Waouh, c'est un métier passionnant qu'être responsable de sécurité informatique.
Peut-être que l'invité de la semaine prochaine aurait besoin de l'inspecteur gadget.
Ah bon, pourquoi ?
Il est directeur d'une troupe de théâtre et doit avoir besoin de plein de trucs pour les décors et les mises en scène.
Restez avec nous sur Radio Fribourg, car vendredi prochain, on vous donne rendez-vous avec Pierre-François Cohen, directeur des Ombres de Shakespeare. Bon week-end, à bientôt.